Nous avons le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir à la librairie Mola, dans les salons Albert Mola, Floc, illustrateur, auteur de bande dessinée à 16 heures, pour, à l'occasion de la parution donc, de cet ouvrage, le travel book sur Édimbourg, édité par Louis Vuitton. Donc un très 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 bel ouvrage, hein. J'ai toujours l'élastique mais je l'ai beaucoup compulsé avant de venir ici. Pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous raconter quelle a été la genèse de ce projet, de cet ouvrage?
Oui, les gens de Louis Vuitton m'ont contacté pour faire un exemplaire de la collection. Et dans un premier temps, j'étais pas totalement partisan de le faire parce que l'idée d'être à 60 ans un guide touristique était une notion qui m'échappait un tout petit peu. Et bien que la présentation et le livre soient d'un aspect très agréable, n'est-ce pas, très plastique, très intéressant et tentant, donc je n'aimais pas l'idée que ça soit un livre de dessin, parce que si je crois avoir fait quelque chose de précis dans ma vie, c'est de faire ce qu'on appelle un livre, des livres, vous voyez. Et ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les livres. Des livres, pourquoi? Parce que c'est la chose, l'objet le plus délicieux pour moi, pour enfermer les idées qui nous encombrent la tête. Voilà. Mais ces idées-là, je n'arrive pas véritablement à concevoir qu'elles puissent passer qu'avec des dessins. Moi, je ne me sens pas dessinateur, vous voyez, je dessine, mais je ne suis pas un travailleur manuel. Voilà. Et donc, je ne dessine que parce que j'ai une idée, et ce dessin va être la transcription de l'idée. Mais j'ai besoin de texte, j'ai besoin de raconter des choses. Donc, j'ai dit qu'après que ma chère femme m'ait donné le conseil de retourner vers les gens de Louis Vuitton, parce que elle savait que j'aimais beaucoup Édimbourg et que j'aimais beaucoup l'Écosse et que j'avais des choses à raconter sur tout ça. Et donc, je suis revenu, j'ai proposé Édimbourg, ils ont accepté, mais à condition, en effet, qu'il y ait du texte. Voilà. Sinon, je pense que je ne l'aurais pas fait. D'ailleurs, je pense pas que ça soit une collection. Je les ai embêtés d'une certaine façon parce que ça fait une édition anglaise et une édition française. Pourquoi une édition anglaise? Parce que l'édition principale, celle de tout le monde, c'est l'édition anglaise, puisque c'est un livre qui est vendu dans le monde entier. C'est un livre qui est vendu dans des très belles librairies, hein, comme Mola ou Galignani à Paris, enfin, vous voyez, mais surtout, c'est destiné à partir dans le monde entier, dans toutes les boutiques Louis Vuitton, puisqu'elles sont suffisamment bien faite pour avoir toujours un espace de librairie. Et donc, je suis revenu vers eux avec cette idée. Donc, je voulais raconter quelque chose qui dépasse je dirais même qui dépasse même l'idée de l'Écosse. Vous voyez, mon idée, fondamentalement, ce n'était pas de faire un livre sur Édimbourg, c'était de faire un livre de plus de Floc, voilà. C'est-à-dire arriver à joindre sur un thème plus large, vous voyez, plus universel, d'y ajouter ma petite façon de raconter les choses, ma petite musique à moi, et de l'inscrire dans les au moment même où je le faisais, dans ce que je faisais à ce moment-là. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je fais depuis quelque temps des livres pour enfants, enfin, qu'on appelle pour enfants, qui ne sont pas pour moi du tout des livres pour enfants, qui sont des livres pour moi, tout simplement, vous voyez, parce que je dis ce que j'ai envie de dire, tout simplement, je ne me préoccupe pas du destinataire, vous voyez, et donc, dans la foulée, j'ai décidé de faire ce livre avec cet angle-là.
D'accord. Et alors, donc là, vous avez dit quelque chose de très intéressant.
Et ça tombait bien, excusez-moi, oui. Parce que c'est quand vous voulez faire découvrir une ville à quelqu'un, ça s'appelle une initiation. Et quand vous éduquez un enfant, ça s'appelle aussi une initiation. Donc, j'ai mêlé les deux.
Oui, donc, avant de revenir à l'idée que... ça qui me semble très intéressant, un autre livre de Flock, on parlera des autres livres de Flock qui ont précédé celui-là. Mais donc, vous avez fait un voyage précis pour, je dirais, bâtir le projet.
Oui.
Alors, pour choisir les lieux.
Oui, parce que les gens de Louis Vuitton font très bien les choses. Il y a un contrat d'édition, vous voyez. Mais il y a aussi la personne est invitée à partir 3 semaines dans l'endroit choisi, accompagnée et dans des forcément excellentes conditions. Donc, bien que je connaissais Édimbourg déjà, j'y suis allé avec cette idée de faire ce livre, vous voyez.
D'accord.
Et le fait de rester 3 semaines, en plus, c'était plutôt parfait parce que. Parce que c'est presque un peu long. Il n'y a pas besoin de rester 3 semaines à Édimbourg. Et comme vous le verrez, j'ai rajouté d'ailleurs la région qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire le Fife qui monte jusqu'à St. Andrews et vers l'est, si je ne dis pas de bêtises, les Lothians qui vont jusqu'à une petite ville balnéaire qui s'appelle North Berwick, même si ça s'écrit Berwick, ça se prononce Berwick. Voilà. Et même malgré ça, 3 semaines, c'est presque un peu long, mais ça me permettait justement de ne pas être là en touriste, à me dépêcher, mais à vivre et à ressentir la ville.
Oui. Oui, et donc pour les personnes qui n'ont pas encore lu le livre, c'est vraiment une exploration d'Édimbourg et sa région, enfin de toute la région de l'estuaire. C'est vraiment, bon, c'est d'une grande richesse. Et alors justement, est-ce que, à l'occasion de ce séjour, vous avez parfait votre culture sur l'Écosse? Parce que c'est hallucinant le nombre de choses qu'on apprend en lisant ce livre, hein. Bon, moi je suis angliciste.
Je les ai apprises aussi souvent.
Mais je suis agrégé d'anglais à l'origine. Bon, même si je m'intéresse plutôt au côté nord-américain, mais enfin bon, j'ai appris un certain nombre de choses sur le monde britannique il y a longtemps. Mais là, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses que j'ignorais sur l'Écosse.
Même une éditrice écossaise m'a dit qu'elle avait appris des choses. Mais j'aurais pu en raconter d'ailleurs beaucoup plus, hein, parce que c'est assez passionnant. Mais moi, j'ai aussi respecté l'esprit de la collection. Et il y a beaucoup de dessins, vous voyez. Mais oui, pour moi, il y avait, on va dire, des thèmes fondamentaux que je voulais aborder. Et ces thèmes-là, d'ailleurs, je les ai... je dirais que je m'en suis presque débarrassé avant de partir. Je suis parti en août de l'année dernière, vous voyez. Et dans les 2 mois qui ont précédé... J'ai fait les 40 premières pages, celles qui sont justement consacrées à ces thèmes qui m'étaient chers, à savoir le tweed, le tartan, le kilt, le golf et ce que j'appelle le glorification, c'est-à-dire les grandes personnes, les grands visages, les grandes personnalités écossaises dans le domaine de la littérature ou de la peinture, vous voyez. Et j'ai bien fait d'ailleurs de faire ça, vous voyez, parce que au retour, j'avais encore 90 images à créer, qui elles sont parsemées de temps en temps, assez souvent même de petits textes, vous voyez, mais qui sont là aussi des dessins.
Et en fait, tout le livre est traversé par une sensibilité stylistique. Bon, qu'on reconnaît quand on connaît votre œuvre, l'ensemble de votre œuvre, hein, qui précède ce livre, hein, cette espèce de fascination pour, comment le résumer, l'élégance britannique, le style, tout ce qui relève du style vestimentaire, du style architectural.
Si vous me permettez, oui. Je le résumerai de cette façon-ci. Sans la Grande-Bretagne, la vie ne vaudrait pas la peine.
Oui.
Et donc sans la culture britannique. Et quand je dis ça, les gens pensent que je fais l'idiot, mais je le ressens très, très profondément. Vous voyez, j'ai absolument... Et je dis bien d'ailleurs la Grande-Bretagne, parce que l'Écosse m'est toujours apparue comme l'élément important de cette association assez bizarre, puisqu'on sait que les Écossais sont celtes, vous voyez, et que les Anglais, pour simplifier, sont plutôt saxons. Hein, la famille royale a changé son nom. Hein, vous savez que c'était des Battenberg qui sont devenus des Mountbatten. Et ça permet justement de... J'aime les deux parce que si je n'aimais que l'Angleterre, justement, je me sentirais prisonnier. Et moi, je ne veux pas faire cible dans la vie. Je ne veux pas être attrapé. Et vous avez toujours donc une porte de sortie, vous voyez. Vous, de temps en temps, la décontraction celte des Écossais est la bienvenue contre la rigueur britannique qui peut aller jusqu'à... l'énervement, parce que j'ai beau adorer ça, je suis malheureusement, j'ai beaucoup de caractéristiques françaises, dont l'impatience, et en même temps, les Écossais peuvent être assez fatigants dans leur approche aussi de la vie. Toute une tribune écossaise, dans un match de rugby, se retournant et soulevant son kilt pour proposer leur dos aux caméras, vous voyez, c'est pas, je pense pas que les Anglais feraient ça. Exactement. Donc, je pense qu'il y a un équilibre en effet entre les deux.
D'accord. Et alors, un autre point qui m'a frappé en lisant l'ouvrage. C'est que quand vous représentez des paysages ou des lieux, le plus souvent, il n'y a personne.
Mmh, oui. Je pense que ce que je fais, moi, c'est souvent, j'aime l'illusion. Vous voyez, je n'aime pas... je pense que j'aime Londres aussi à la folie. Parce que c'est une sorte d'illusion, on dirait un théâtre Londres, quand vous êtes sur ces petits squares là et tout, vous avez vraiment l'impression que c'est une maquette, enfin vous voyez, c'est tellement adorable. Et en l'occurrence, souvenez-vous quand j'ai fait par exemple le Blitz, eh bien Blitz c'était une histoire que j'écrivais toutes les semaines, qui passait en prépublication dans un journal qui n'existe plus, qui s'appelait Le Matin. Et moi, je savais très bien que la fin de l'histoire, c'était une pièce de théâtre, vous voyez. Mais mon boulot, c'était de jamais le faire penser, le faire imaginer par le lecteur. Donc, je trouvais toujours, et en même temps, je n'avais pas le droit de sortir, mais je trouvais des combines, vous voyez, pour leur faire oublier. N'oublie pas que tu m'as dit qu'on irait chez Fortnum & Mason. Oui, oui, mère, je vous l'ai dit. Et puis, quand on reprenait la semaine d'après, ils revenaient avec, en habit, avec des choses dans les bras, vous voyez. Et donc, on donnait l'illusion qu'ils étaient sortis. Eh bien, là, c'est pareil. Je donne l'illusion de l'humanité par le fait qu'il y ait le père et la fille, et puis d'autres figures, hein, comme celle de Walter Scott et puis d'autres. Mais c'est vrai que je n'ai pas dessiné les Écossais. Je vais être méchant, parce qu'ils ne sont pas beaux. Voilà. Parce que malheureusement, ils sont des êtres absolument adorables, mais il se passe qu'il y a là-bas eu un problème de surpoids, je ne sais pas s'ils mangent mal ou quoi. Les femmes à tout âge ont des cheveux rouges, violets et tout, il y a des tatouages en pagaille, enfin vous voyez, et puis le premier de leurs défauts, c'est qu'ils ne mettent pas de kilt tous les jours, vous voyez, ils en mettent pour les mariages, et ça manque pour moi de je ne voyais pas l'intérêt. Et du reste, Je me souviens que là-bas, j'ai acheté simplement un ou deux livres qu'on appelle pour touristes, vous voyez, sur la ville. Et je me souviens que celui qui m'avait le plus intéressé, c'était un type très malin qui s'était levé sans doute à 4h ou 5h du matin et qui avait proposé une image de la ville, justement, sans aucune personne dedans, silencieuse, je dirais. Moi, je me vois bien, ce type-là, je pourrais boire un verre avec lui.
Une autre question que je me suis posée dans le sillage donc de cette observation sur le fait que bon, dans les décors, on ne voit personne, c'est et ça m'a fait penser à vos ouvrages précédents, alors aussi bien au niveau illustration qu'au niveau bande dessinée, c'est est-ce que vous avez une sensibilité particulière vis-à-vis du théâtre? Une sensibilité théâtrale, parce que bon, donc Blitz, effectivement, c'était, moi je l'ai lu dans le Matin de Paris à l'époque, jour après jour, ça c'était quelque chose d'assez palpitant en fait. À notre époque, les gens ont oublié ce que c'était de lire une bande dessinée jour après jour dans les journaux. Hein, surtout une bande dessinée où racontant une histoire qui se suit. Hein, c'est pas comme quand vous lisez Garfield, un gag de Garfield.
Oui, oui, oui.
Tous les gags de Garfield se ressemblent. Vous pouvez, vous pouvez arrêter pendant 3 mois, vous reprendrez exactement à l'instant où vous êtes arrêté. Mais moi, j'ai dans la lecture des albums de bande dessinée. Il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de récurrence de la thématique du théâtre, alors que parfois vous avez utilisé délibérément. Et puis, dans toute votre œuvre d'illustrateur, il y a ces personnages présentés isolément, comme des espèces de personnages modèles à placer sur des scènes, à placer devant des décors.
C'est exactement ça. Ouais. J'aime le théâtre et je pourrais presque dire que je l'aime comme moi je le propose. C'est-à-dire que je n'aime pas le théâtre au théâtre, curieusement. J'aime sa forme, j'aime la proposition, le fait que justement... Le théâtre, pour moi, c'est le contraire de l'aventure, vous voyez. Et si j'ai apporté quelque chose à la bande dessinée, entre autres, il y a celle-ci, de tuer l'aventure. Hergé, tout ça, c'est de l'aventure. Et moi, je voulais juste une conversation autour d'une tasse de thé, pratiquement. Et le théâtre, c'est ça. Et je ne l'aime pas en vrai, pour une simple et bonne raison, c'est que le plancher fait du bruit quand il marche. Voilà. Mais la forme même du théâtre est quelque chose qui m'intéresse. Et peut-être aussi que je n'aime pas le théâtre, que j'ai besoin d'un théâtre qui soit dérangeant. Je pense par exemple à un type formidable dont j'ai vu les pièces autrefois, et qui à mon avis va vous intéresser, c'était Bob Wilson.
Oui.
Un Américain intéressant. Et qui a fait un théâtre qu'on pourrait dire est un théâtre d'image. Pratiquement. Vous voyez, ce sont des belles images, ça bouge, mais ça bouge très très peu. En fait, je n'aime pas quand ça bouge, vous voyez. Je suis amoureux de la page, du papier et de ce qui ne bouge pas. C'est pour ça que j'ai un mal fou dans ce 21e siècle. Je serai du 20e jusqu'au bout.
Et est-ce que, donc vous avez...
Je n'ai pas de portable.
Moi j'en ai un, mais c'est ma femme qui m'oblige. toujours pour parler un peu du théâtre. Parmi les images marquantes que vous avez produites, il y a les dessins que vous avez faits pour Alain René, pour Smoking, No Smoking. Ces adaptations assez extraordinaires d'Alan Ayckbourn. Vous aviez une relation particulière à Alan Ayckbourn ou à Alain René?
Quand j'ai connu Alain René, il faut dire une chose très... Le début du début, c'est que quand j'écris Seven Oaks et que sort le rendez-vous de Seven Oaks, René sort un film qui s'appelle Providence, exactement au même moment, et c'est exactement la même histoire. C'est hallucinant. Ouais. Et tous les deux, on explore ce qu'on appelle une mise en abîme, c'est-à-dire une histoire dans l'histoire, vous voyez, et dont c'était assez hallucinant. Et il m'appellera des années plus tard pour faire Smoking, No Smoking, et je ne connaissais pas Alain Ayckbourn. Vous voyez, même lui, il l'avait découvert que très peu de temps avant.
D'accord.
Mais c'est un type qui m'a son théâtre m'a passionné parce que c'est, vous connaissez, vous voyez, dans Smoking No Smoking, l'idée c'est qu'il y a deux personnes, deux acteurs qui jouent tous les rôles. Et puis il y a un jeu avec à la Kierkegaard, hein, de pistes en arborescence de si j'avais fumé cette cigarette, où est-ce que la vie m'aurait emmené si je ne fume pas cette cigarette, où est-ce que ça va m'emmener? Et donc c'était des pistes comme ça. Et forcément, c'est un théâtre qui m'a tout de suite passionné parce que, comme je le disais, avec Rivière, on était intéressé par le nouveau roman et on n'a pas fait Seven Oaks par hasard. Pour moi, c'était fondamental de faire de la bande dessinée d'une façon particulière. Je ne voulais pas faire de la bande dessinée pour gagner ma vie, ça ne m'intéressait pas du tout. Je voulais proposer quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et d'ailleurs, on a comparé notre histoire à Borges. Vous voyez, il y avait une demande quand même très particulière. Et là, Alan Ayckbourn était assez ahurissant dans ses propositions, parce que toutes ces pièces sont comme ça. C'est lui d'ailleurs qui m'a donné envie de faire un livre que je considère être à moi, plus que à Floch et Rivière, vous voyez, mais c'est vraiment moi qui l'ai fait, parce que j'avais été titillé véritablement en travaillant avec René, puisque j'avais des dessins parsemés dans le film. Oui. Et j'avais été très titillé par l'esprit de Alan Ayckbourn et je voulais absolument faire quelque chose comme ça. Le défaut d'ailleurs de ce genre-là, c'est peut-être que ça frise souvent l'exercice de style, vous voyez. Et forcément, on sait très bien que quand il y a un exercice de style, on perd un petit peu sur une narration qui est plus de fiction, hein, vous voyez, on ne peut pas gagner partout. Mais j'avais terriblement besoin de faire ça. Et le théâtre de Ayckbourn, parce que justement c'était du théâtre, c'était aussi de l'illusion. Et René a fait un film tout en studio. Et c'est intéressant de voir ça parce que, vous savez, faire une image, moi je n'aimerais pas être photographe par exemple. Voyez, ou si j'étais photographe, je serais photographe comme je dessine. En fait, je suis un dessinateur de studio, je pourrais presque dire. Et René est plutôt un metteur en scène de studio. Parce qu'on a besoin de tout contrôler, vous voyez. On ne veut pas être surpris par le mauvais temps, par quelque chose qui est par terre, dont on s'apercevra qu'il est sur l'écran depuis le début du film, alors qu'on ne le voulait pas. Et donc, on monte comme ça. Et Smoking, No Smoking, ce sont des images, finalement, vous voyez.
Et alors justement, autre chose, je pense, qui court dans toute votre œuvre et que l'on rencontre dans cet ouvrage, c'est justement la fascination, enfin, ce que moi je perçois comme une certaine fascination pour des images d'hommes et de femmes célèbres. Donc, par exemple, toutes les couvertures de Life. Que vous aviez faite à l'époque avec Yves Klein, avec Alfred Hitchcock, oui. Avec
oui, Jean-Jean mais Billy. Encore une fois, quand on faisait ça, quand j'ai fait ça, par exemple, l'idée, c'était pas de faire des gens célèbres, c'était de parler de gens qui nous fascinaient et que justement le magazine Life n'aurait sans doute jamais mis en couverture, à part quelques exceptions, vous voyez, mais c'était plutôt dire ce qui, moi, étaient les gens qui nous fascinaient. L'idée, par exemple, de Matt Hitchcock, qui ouvre son frigidaire, dans lequel il y a une tête de lui-même, enfin, en plastique, vous voyez, mais ce qui était la réalité, d'ailleurs, il avait ça dans son frigidaire, ça, il s'amusait à le montrer à ses amis. Eh bien, il faut comprendre une chose, c'est que maintenant Hitchcock c'est une tarte à la crème, tout le monde connaît son génie et tout ça, sauf que quand moi j'ai fait ça, Hitchcock n'était pas du tout considéré comme ce qu'il est aujourd'hui. C'était un type qui faisait le bonheur de la télévision le dimanche soir avec un film tout public soi-disant, voyez. Et il a fallu que François Truffaut fasse ce fameux livre d'interview de Hitchcock, est un bouquin passionnant et où on peut pas échapper au génie véritablement d'Hitchcock parce qu'on comprend que tout ce qu'il fait est pensé et brillant, très, 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 très intelligent véritablement. Et donc, et à ce moment-là, on a eu, sont arrivés à Paris, il y a eu un festival et on a pu voir les 60 films que Hitchcock avait fait. Mais dans ces 60 films-là, il y en avait 20 que nous connaissions déjà, vous voyez, mmh. les 40, c'était... Donc, on a participé, après Truffaut, bien sûr, vous voyez, de cette redécouverte-là, et pour pratiquement tout, c'était, vous voyez, j'ai mis des gens comme Bukowski, d'ailleurs, le deuxième s'appelle High Life, mmh. et High Life, c'est une vie high, to be high, à ce moment-là, c'était être défoncé, vous voyez, mmh. donc c'était un bouquin, une démarque de life, folle, en fait, vous voyez, qu'avec des gens qui avaient abusé des drogues, que ce soit Elvis Presley avec les amphétamines ou même des gens formidables comme Aldous Huxley, vous savez, qui a pris du LSD pour, et qui a écrit Les Portes de la Perception, mmh. voilà, et tout ça. Et nous, on parlait de ces choses-là, vous voyez. Donc, ce n'était pas les gens célèbres qui m'intéressaient, c'était les gens qui à qui je rendais hommage, sur lesquels je m'appuyais encore parce que j'étais encore un... Oui. Un branleur.
Oui, mais célèbre. Enfin, célèbre pour, on va dire des gens célèbres pour des bonnes raisons.
C'est mieux.
Et d'autre part, il y a aussi un fort tropisme chez vous avec les années 30, 40, 50.
Ah oui. Si on me demandait. À quelle époque j'aurais voulu vivre véritablement, ça aurait été sans hésiter les années 30. Elles se finissent bizarrement, mais...
Oui, elles ont mal fini.
Mais... Oui, ça me va parce qu'elles ne sont pas... Curieusement, elles ne sont pas excessives, vous voyez. Je déteste l'art nouveau, les années 10. J'aime bien les années 20, mais les années 20 sont trop excessives, vous voyez. Et les années 30 et les années 40, pour moi, sont très... presque douce, vous voyez. Il y a une qualité de vie des grands écrivains, des gens formidables. Aujourd'hui, c'est abominable le désert dans lequel on vit. À cette époque-là, il y a James Joyce, enfin, il y a tout le monde, vous voyez. C'est vraiment. Puis l'apparence, tout me plaît de cette époque-là, bien sûr. Pas qu'en Angleterre. J'adore Sacha Guitry, par exemple, aussi.
Mais donc, c'est une espèce de. Alors, le terme nostalgie est toujours compliqué à utiliser quand soi-même on n'a pas vécu une période, mais oui. Disons, on va dire une vraie fausse nostalgie pour une époque marquée par un certain hédonisme.
Moi, le mot nostalgie ne me dérange pas parce que j'y vois beaucoup de. Si c'est une recherche de qualité, je me souviens d'un architecte qui disait. Que la qualité d'un projet se juge à sa capacité à créer une nostalgie. Ben, vous voyez, si la capacité de créer une nostalgie, ça veut dire une capacité à créer quelque chose qui va perdurer, vous voyez, qui va dépasser le moment même de la chose. Donc si la nostalgie, c'est ça, une qualité qui dure, moi, c'est... Vous savez, tous les mots sont à double sens. Si on me dit tu es snob... Et que snob, c'est suivre les coteries du moment. Je ne crois pas être snob du tout. Au contraire, quand il y a un attroupement, moi, je pars dans l'autre sens. Mais si snob, c'est être au contraire loin des coteries et faire remarquer que on n'est pas de ce monde-là, là, je suis extrêmement snob, en effet. Vous voyez, donc les mots ont des... Donc nostalgie, ça ne me dérange absolument pas.
D'accord. Et vous êtes quand même quelqu'un qui... Et ça, je ne le dis pas de manière désobligeante, vous aimez le passé. N'espérez pas dans cet ouvrage voir des gratte-ciel de Nimbourg ou des bâtiments construits dans les 30 dernières années, voire dans les 50 ou 60 dernières années.
Oui. Non, je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas besoin de faire ça, vous voyez. Moi, ce n'est pas très compliqué, vous savez, moi, je suis dans un... J'ai mon petit prêt et je travaille cette affaire-là parce qu'il y a toujours à trouver, vous voyez, il n'y a pas... Donc, je ne me sens aucunement obligé de suivre les obligations du moment, vous voyez, ça n'a absolument aucune importance pour moi. Je dirais même que j'aime cette mauvaise foi, j'en ai presque besoin. Et je n'ai pas peur de ne pas être moderne, d'ailleurs, parce que je dis toujours que je suis de très bonne humeur et de très mauvaise foi. Si ça ne fait pas toutes les conditions pour être moderne, c'est que j'y connais rien.
En effet. Alors, justement, il y a un magazine qui est quand même un magazine qui a toujours été beaucoup en prise sur le présent, c'est le New Yorker, pour lequel vous avez fait un certain nombre de couvertures. Alors, ça marche comment faire une couverture pour le New Yorker ?
Alors, vous voyez, on peut dire que les choses, en tout cas pour moi, fonctionnent toujours de la même façon. Le New Yorker, c'est un rêve d'illustration. Alors, moi, je dis, je ne suis pas un dessinateur, mais curieusement, la couverture du New Yorker représente un rêve d'illustrateur parce que c'est une couverture qui n'est faite que d'un dessin. C'est-à-dire que c'est unique au monde. Vous voyez, il n'y a pas de headlines, il n'y a pas de titre écrit dessus. Et donc, je l'aime parce qu'il y a la place, parce que quand vous ne mettez pas de titre, vous voyez, si vous faites une couverture, par exemple, pour un magazine comme Lire, et moi je l'ai démontré dans un bouquin, et que je fais une scène de neige, un couple qui fait du ski, par exemple, vous voyez, parce que c'est un numéro autour de Noël, voilà, eh bien vous savez qu'il y aura quelque chose, ça va être écrit « Les beaux livres », et puis il y aura d'autres titres. Donc, vous racontez quelque chose, c'est juste une illustration. Mais s'il n'y a pas de titre, à ce moment-là, vous allez faire une illustration qui va être, elle, obligée de raconter une anecdote. Et donc, on sort du dessin pur. Et pour en revenir à votre question, le New Yorker, moi, j'ai envoyé des choses. Il m'avait demandé de faire des illustrations à l'intérieur, au départ. Et j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est la couverture qui m'intéresse. Et j'ai fait un livre pour me faire plaisir, sans attendre que le New Yorker me demande, qui était en fait fait de fausses couvertures, ça s'appelle Journal d'un New Yorkais, et qui était en fait de fausses couvertures du New Yorker. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'irais faire des couvertures du New Yorker? Je peux tout à fait m'offrir ce plaisir. Voilà. Et puis finalement, ils m'en ont demandé, et je me suis aperçu que je ne pourrais pas. C'est un pire proche que je fais malheureusement au New Yorker. L'image est absolument formidable. On demandait d'ailleurs à un des grands éditeurs du New Yorker dans les années 50, qu'est-ce que c'est qu'une couverture du New Yorker? Et il répondait de façon ravissante pour moi, oh, c'est pas compliqué, c'est un dessin avec écrit The New Yorker en haut. Voilà, c'est très ouvert, très. Mais cette différence qu'aujourd'hui, comme la vie est ce qu'elle est, il y a une tentation que je trouve très désagréable d'emmener les couvertures vers des topics, c'est-à-dire des thèmes du moment. Vous voyez, je n'ai pas le téléphone portable, enfin tout ce qui pouvait se faire. Moi, forcément, tout ça, ça peut se faire sans moi. Mais j'ai envoyé des images qui me plaisaient et je considère que c'est un véritable miracle, peut-être parce que le grand patron à ce moment-là, il met ce que je faisais, et qui sont passés. Donc j'ai fait en fait des images, des couvertures du New Yorker que j'aurais pu faire dans les années 60. Vous voyez, elles n'étaient pas prises sur la réalité. Et la combine que j'avais trouvée, c'est que quand vous faites des couvertures pour le New Yorker, on vous envoie au début de l'année tout le programme. Vous voyez, il y a avec des récurrences ou des obligations, the income tax, comment ça s'appelle, Halloween, enfin vous voyez, sur toute l'année, et puis le Noël bien sûr et tout ça. Et forcément, tous les illustrateurs se jettent sur les propositions. Moi, qu'est-ce que je fais encore? Toujours l'attroupement, vous voyez, je pars dans l'autre sens. Et je me disais, il y a deux choses qui sont très fortes à New York, c'est l'hiver et l'été. L'hiver est très, très violent et l'été est très violent aussi. Et donc, je me suis dit, tu vas faire ce que tu as dans la tête avec juste l'appui de ça. Et c'est comme ça qu'elles sont passées, vous voyez.
D'accord.
Voilà. Ouais. Mais après en avoir fait exactement 7 ou 8, vous voyez, mon plaisir était... Je me suis mis d'ailleurs à en faire. J'ai fait une centaine d'illustrations à l'intérieur, mais des pleines pages, vous voyez. C'était très, très agréable. On m'envoyait des textes. Et quand le texte me plaisait aussi, je ne faisais pas parce que c'était le New Yorker qui me demandait. Et quand le texte me plaisait, quand c'était un texte merveilleux sur Dashiell Hammett ou des choses qui me, ou Graham Greene, c'était un délice pour moi de faire une belle illustration.
Et alors, juste pour ma gouverne, vous étiez en contact avec Françoise Mouly, avec la femme d'Art Spiegelman ou d'autres personnes Donc, la femme d'Art Spiegelman est la directrice artistique du New Yorker.
Oui, et peut-être que si on peut lui reprocher quelque chose, justement, c'est qu'elle soit française et que la française est un peu trop cartésienne, vous voyez. Et je pense que. Sorry, dear Françoise, mais je pense qu'elle demande justement trop de topics et pas assez de liberté. Ce qui est merveilleux dans cette couverture, c'est que c'est pas d'être libre, c'est simplement c'est de parler de la vie en général, vous voyez, et pas de la vie absolument du moment. Il faut être plus grand que ça, il faut être plus littéraire presque, je dirais. Et c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire, parce que j'avais plus de plaisir, vous voyez. Ça ne m'intéressait pas de qu'on me donne un thème, vous voyez, oui. Je n'aime pas faire ça.
Et alors donc, totalement à l'opposé du New Yorker, et pour revenir à l'ouvrage sur Édimbourg, moi la dernière chose qui m'a quand même énormément frappé, c'est le point de départ de l'ouvrage et ce qui fait sa simplicité, sa force à la fois. C'est que ce sont les deux mêmes personnages que dans vos ouvrages jeunesse. Hein, ce papa, on suppose que c'est le papa adulte et la petite fille, oui, avec une certaine ressemblance.
Il faut que je lui mette des cheveux gris maintenant.
C'est étonnant comme pont. Entre les ouvrages jeunesse, sont exactement les mêmes personnages dessinés la même façon.
Parce que c'est venu naturellement, j'étais là-dedans, j'y prenais beaucoup de plaisir et j'ai donné un grand coup de pied au cul du petit lapin pour qu'il ne nous embête pas. Et je me suis dit, la meilleure façon d'initier quelqu'un, c'est de le faire à la petite fille. Parce que vous voyez, par exemple, quand vous me faites la gentillesse de me dire que vous avez appris des choses dans mon livre, bien, imaginez que je vous les apprenne en direct, c'est assez désagréable, je n'ai pas donné de leçons à un adulte, vous voyez, et de le faire passer par une petite fille, c'était une combine, je crois, délicieuse. Et puis ça me permettait toujours, cette obsession pour moi, de que ça parte de ma vie, vous voyez. Vous savez, mon placement, il n'est pas très compliqué. Si quelqu'un vient et me demande quels sont les 10 films ou les 10 livres les plus extraordinaires de l'histoire, je dis faites ça sans moi. Mais si on me dit quels sont les 10 livres et les 10 films que vous préférez, vous avez la liste en 3 minutes. Vous voyez, voilà, c'est ça. Donc ce n'est pas du nombrilisme, c'est simplement que je suis capable que de faire ça, vous voyez. Et donc, vous voyez, je vous la montre, cette chevalière. Et le bouquin commence comme ça. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que c'est ? Je demande à la petite fille. Qu'est-ce que ça représente ? Et la petite fille dit une fleur. Je dis non, pas exactement, un chardon. Et c'est parti. Et le chardon, c'était l'emblème de ma famille. Et c'est l'emblème aussi du... Je lui dis, je suis fier que ma famille ait choisi cet emblème-là parce que c'est l'emblème de l'Écosse. Et je lui raconte pourquoi c'est l'emblème de l'Écosse, et puis c'est parti. Parce que c'est ça une histoire, vous voyez, c'est vous raconter quelque chose, et puis comme dans De Niro, vous savez, dans le film qui était adapté du dernier bouquin de Fitzgerald, Inachevé, dont j'oublie
De Last Tycoon.
Le dernier Nabab, exactement. Nabab, voilà. Et il y a un écrivain qui veut faire du cinéma, surtout pour prendre l'argent, qui y a à prendre, et comme beaucoup l'ont fait, de Faulkner à Fitzgerald, justement, et le producteur lui dit « Vous n'avez pas compris ce que c'est que le cinéma ?» Et il dit « Ah bon ?» Et il commence à lui raconter une histoire, puis tout d'un coup, il s'arrête. Et pourtant, le type, il est écrivain, il devrait connaître la chanson. Et il dit « Qu'est-ce qui se passe après ?» Il dit « Je ne sais pas, mais vous voyez, c'est ça le cinéma. » Ben, c'est pas ça le cinéma, c'est ça les histoires à raconter. Vous voyez, il faut tout d'un coup, si on s'arrête, dire « Qu'est-ce qui se passe après ?» Voilà, c'est ça, faire un livre, et c'est ça, avoir un rapport avec son lecteur.
Et donc, maintenant, est-ce que vous êtes Floc illustrateur, Floc auteur de bande dessinée, Floc auteur d'ouvrages jeunesse, tout ça à la fois, en alternance
Je dirais que je suis en tout cas plus Floc qui fait de la bande dessinée. Ça, c'est totalement révolu. Je n'en referai jamais.
Il n'y en aura plus ?
Ah non, jamais. J'ai dit ce que
j'avais... Beaucoup de gens vont être en deuil dans cette salle.
Non, j'ai dit ce que j'avais à dire dessus. Bien sûr, j'aurais pu écrire 25 histoires sur le Blitz et tout ça. J'en avais des choses très, très marrantes. Hein. Je te dis, par exemple, la place au Butler chinois. Là, justement, ça m'amusait beaucoup. J'avais plein d'idées. Mais c'était fait. Et puis franchement, je n'aime pas dessiner à ce point-là. Vous voyez, ça fait beaucoup trop d'images à faire et puis ça m'ennuie. Et quand on s'ennuie, on ennuie les autres aussi. Et non, je suis simplement, moi je regrette, je voudrais juste faire un livre, vous voyez, et puis j'allouse pas, je connais très peu le monde de la musique par exemple, mais un musicien ça fait, on dit le nouvel album de tel musicien, puis on l'écoute et on aime, et on constate son évolution, vous voyez, et bien je voudrais que ça fasse la même chose, et je m'aperçois que c'est pas si évident que ça, vous voyez, qu'il y a... que les éditeurs ne sont pas toujours prêts à ça. Pour moi, c'est quelque chose... Parce qu'un bon éditeur, c'est quelqu'un qui devrait avoir à vendre des livres à des gens qui n'en veulent pas. Vous voyez, c'est pas de faire des best-sellers. C'est pas de ça, connaître son public. C'est de pas être sûr, et de pas être sûr même pour soi. Je peux pas dire... Imaginez que je me mette à faire un livre en disant « Ce livre va être sensationnel. » Ce serait abominable. Il faut avoir la possibilité de se casser la figure, voyez. Et souvent, j'écris mes livres sans connaître la fin, par exemple. Vous voyez, je connais mon sujet. Souvent, j'ai la fin et j'ai souvent le début. Mais après, j'aime bien me laisser aller. Vous voyez, il ne faut pas enfermer les choses. Voilà comment je vois ça.
Bien. Merci. Bien que... Personnellement, je fais partie de ceux qui sont en deuil d'apprendre qu'il n'y aura pas d'autres bandes dessinées.
Et si je peux me permettre aussi, pas de Blake et Mortimer, parce qu'on m'a souvent demandé d'en faire, et ça n'arrivera jamais, ça non plus. Je le dis très clairement, parce que je suis sur Terre pour être Flock et pour être Jacobs, et quand je vois tout ce qu'on fait à ce pauvre Jacobs, croyez-moi, je n'irai pas rejoindre la meute.
Et alors, donc, une dernière question parfaite pour, enfin, qui boucle le propos que vous venez de faire, c'est, Flock, il fait de la ligne claire ou autre chose?
Non, ça c'est vraiment une chose qui m'a toujours énervé, parce que Hergé n'a jamais inventé la ligne claire. La ligne claire, je déteste qu'on compare mon dessin qu'à Hergé et Jacobs, parce que... Il y a des gens que j'aime, je pourrais vous citer 25 illustrateurs et qui existaient même bien avant Hergé et Jacobs, mais qui étaient eux-mêmes ligne claire. Vous savez, on est ligne claire pour ce qu'on est. Moi, je suis ligne claire dans ma vie, je suis propre sur moi, si vous voulez. Je connais bien Villemin, par exemple, il a inventé la ligne crade, parce qu'il est comme il est, vous voyez, c'est sa vie.
Je pense que personne ne l'a jamais soupçonné d'être ligne claire. Hein,
non, non. Et donc, c'est ce qui fait ça, mais je pense à Boutet de Montvel, quand il a fait cette merveilleuse histoire de Jeanne d'Arc, vous savez, magnifiquement dessinée, mais tellement de gens qui dessinaient déjà Dubout, même des gens comme ça, vous voyez. Il y en a tellement qui était ligne claire, donc je pense que vraiment c'est quelque chose. Par ce qu'on pourrait dire, si la ligne claire c'est la relance du style d'Hergé alors qu'il n'était plus en odeur de sainteté à l'époque Pilote et vous voyez où tout le monde voulait faire des petits fanzines et puis s'éclater, on va dire, hein, pour pas dire pire. En effet, je fais partie, je suis celui avec on va dire Svart d'abord, hein, et moi après, avoir relancé ce style en disant mais vous pouvez faire toutes vos conneries, moi je fais, bien sûr, en ajoutant, en apportant, j'espère, quelque chose, et ce quelque chose qui était dans le rendez-vous de Sevenoaks, une nouvelle étape, rendre encore pertinente cette manière de dessiner, cette propreté qui... Dans une époque où les jeans se sont complètement déchirés de partout et où l'immonde Michael Jackson disait que bad is good, enfin vous voyez toutes ces choses très très complexes, moi ça m'amusait encore une fois d'aller à contre-courant.
Très bien. Je pense qu'il est temps que nous mettions fin à cet échange qui a été passionnant et vraiment très, 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 très intéressant. Merci beaucoup, Floc.
Merci, merci.